Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent pour se énerver la suite. France Inter plus de 13 novembre, l'enquête. Il y a 4 ans exactement, Paris et Saint-Denis étaient le théâtre d'attentats islamistes qui ont fait 130 victimes. C'était au Stade de France, au Bataclan et dans les rues des 10e et 11e arrondissements de Paris où un commando à bord de voitures mitraille les terrasses, les bars et les restaurants. Toute cette semaine, nous vous proposons l'enquête menée par la journaliste Sarah Guibaudot qui suit les questions de justice au sein de la rédaction de France Inter. L'enquête judiciaire sur les attentats du 13 novembre s'achève. Sarah Guibaudot a ressorti ses carnets de notes. Elle a repris le dossier depuis le début. Son podcast 13 novembre, l'enquête remonte la piste de ces aspirants au djihad. Qui sont-ils? Qu'est-ce qui les a poussés à prendre le chemin de la Syrie? Sarah Guibaudot retrace le tragique parcours de cette entreprise terroriste. Aujourd'hui, gros plan sur les francophones qui gardaient les prisons de l'État islamique et sur ses appels à commettre des attentats en Occident lancés par l'organisation.
Novembre, l'enquête. Une série en podcast de France Inter.
Il y a des mecs qui sont arrivés et ils ont tiré.
Deux très fortes explosions.
Je suis venu au djihad, j'ai une expérience. Moi, si je veux, je rentre en France et je vais tout péter.
L'effet de surprise, c'est eux qui en jouent. Alors, ça vous surprend hein, de trouver des Français ici.
Épisode 5, les geôliers. C'est encore un jeune homme, les traits fins, des cheveux noirs coupés courts, une petite barbe. Même sur les images brouillées de la vidéosurveillance de Bruxelles, ce matin du 22 mars 2016, il a un visage ouvert, le genre de personne à qui j'irais demander mon chemin. Najim Lachraoui ressemble à un jeune Belge qui part en voyage. Pantalon beige, blouson noir, il pousse un chariot avec un sac de sport noir. Dans quelques minutes, il va se faire exploser dans l'aéroport de Zaventem. C'est lui qui a fabriqué l'explosif, pour les attentats de Bruxelles comme pour ceux de Paris. 2 ans plus tôt, Najim Lachraoui combattait en Syrie au sein du groupe État islamique. Il était aussi affecté à la garde de ses otages. Nicolas Hénin a été capturé alors qu'il couvrait la guerre civile. À l'été 2013, il se retrouve avec d'autres journalistes et travailleurs humanitaires livré à la barbarie.
Il y avait en particulier dans la première principale prison d'Alep, celle dans laquelle on a été regroupés pour la plupart d'entre nous, qui était dans les sous-sols d'un hôpital ophtalmologique. Notre cellule était en face de la salle de torture. Et les tortures commençaient tous les soirs, juste après la prière du soir, et se terminaient juste avant la prière de l'aube, donc toute la nuit. On entendait dans la pièce à côté des personnes qui se faisaient torturer. C'était des prisonniers, a priori syriens, a priori locaux. Et parmi les bourreaux, il y avait des locaux, mais il y avait aussi des francophones. Des gens qui leur criaient dessus en français, ce qui les faisait tout particulièrement paniquer. Et puis le patron de cette prison venait parfois avec son enfant qui avait l'air d'avoir 4 ou 5 ans. Et lui assister à ses séances de torture.
Les djihadistes tiennent à garder les étrangers en vie. Ils ont une valeur marchande, ce qui n'est pas le cas des prisonniers syriens. Certains matins, quand les otages sont amenés aux toilettes, un cadavre égorgé gît dans le couloir. Pendant cette période, au moins 23 étrangers sont prisonniers du groupe État islamique en Syrie, dont 5 femmes. Leur quotidien, quand ils échappent à la torture, c'est la faim, le froid, la peur et l'ennui. Ils ont été déplacés plusieurs fois. Le plus souvent, ils sont enfermés à plusieurs dans le noir. Je demande à Nicolas Hénin s'il a été surpris de retrouver des Européens parmi ces geôliers.
C'est une surprise. Plus ou moins, on avait déjà compris qu'il y avait quelques francophones qui étaient, et même quelques Français, qui avaient rejoint la Syrie pour se battre. Mais l'effet de surprise, j'ai presque envie de dire, c'est eux qui en jouent. Salim Bengalem, à un moment, débarque dans notre cellule et cherche à nous intimider là-dessus, en disant « Alors, ça vous surprend de trouver des Français ici, de croiser des Français ici ?»
Salim Bengalem a grandi dans le Val-de-Marne. Condamné pour meurtre dans un règlement de compte, il s'est radicalisé en prison. En juillet 2011, il part pour un court séjour au Yémen, rejoindre un groupe d'Al-Qaïda. Il voyage avec Chérif Kouachi, l'un des futurs tueurs de Charlie Hebdo. Selon sa femme, Salim Ben Ghalem aurait été missionné pour commettre un attentat en France, mais il aurait renoncé. Il s'exile en Tunisie, puis en Syrie.
L'un de mes principaux et pires séances d'interrogatoire, euphémisme, va commencer par « Tu vois, c'est nous les beurs qui te faisons peur ».
Au fil des semaines, Nicolas Hénin va découvrir une dizaine de geôliers francophones.
Ce qu'on faisait, c'est à chaque fois qu'on voyait intervenir une nouvelle personne, eh bien, on allait décider entre nous d'un pseudo qu'on lui attribuait. Et en fait, on fait ça pour réussir à identifier les gens et à pouvoir les distinguer les uns des autres, quand bien même ils arrivent masqués. Donc, Nemouche, au début, moi, je vais, puisque la première fois qu'il vient, il vient en jouant aux flics, je lui avais donné, avec Pierre, le surnom de Javert. Et puis, c'est quelques semaines plus tard, on l'entend entre geôliers, qu'il s'appelle Abou Omar. Et donc, à partir de ce moment-là, on va cesser d'utiliser le pseudo que Pierre et moi lui avions attribué pour ne plus le désigner que sous sa kunia, donc le nom de guerre qu'il a choisi lorsqu'il a rejoint l'EI, qui est Abou Omar. Et c'est seulement après son arrestation qu'on apprendra que Abou Omar, en fait, s'appelait Mehdi Nemouche.
Mehdi Nemouche, le futur terroriste du musée juif de Bruxelles, est le plus violent et le plus imprévisible des geôliers. Il a 28 ans, il est né à Roubaix, il a été très tôt confié à l'aide sociale à l'enfance. Il a été condamné 7 fois, surtout pour des vols et des braquages, et s'est radicalisé en prison. Pudique, Nicolas Hénin ne nous fera pas le récit détaillé des séances de torture que lui et les autres otages ont subies. Je me suis sentie un peu mal à l'aise d'avoir à lui poser des questions là-dessus, mais c'est un aspect important de cette histoire. Le journaliste Didier François, sur Europe 1, a raconté que Mehdi Nemouche aimait beaucoup leur écraser les ongles avec une pince ou leur donner des coups de matraque électrique. Quand il revenait après quelques semaines au combat, Mehdi Nemouche se vantait d'avoir massacré des musulmans chiites et violé leurs femmes. Il est capable d'entamer ensuite une vieille chanson française, d'Aznavour par exemple. D'autres geôliers font preuve de cruauté dans un anglais parfait. Les otages, qui se raccrochent à l'humour, leur trouvent aussi des surnoms.
Les plus connus, et internationalement, de ces surnoms attribués par les otages, c'est ceux qui ont été donnés à ceux qu'on a appelés les Beatles, parce qu'ils parlaient un anglais avec l'accent de Londres, John, George et Ringo, qui étaient trois des geôliers britanniques. John, surnommé après sa première apparition publique, Jihadi John, Mohamed Amouazi, est évidemment le plus connu d'entre eux.
Né au Koweït, Mohamed Amouazi a grandi dans les beaux quartiers de Londres. Il sort diplômé de l'université avant de se tourner vers le djihad armé. La violence physique, ce n'est pas le registre de Najim Lachraoui. C'est l'un des plus jeunes parmi les geôliers. Il n'a alors que 22 ans. Né au Maroc, il a grandi à Schaerbeek, dans l'ouest de Bruxelles. Il était plutôt bon élève à l'école. Il a fait du taekwondo, comme son frère, champion d'Europe 2016. Le cadet, Najim Lachraoui, s'est radicalisé à la fin de l'adolescence. Il a lâché ses études d'électromécanique pour venir en Syrie. Et Nicolas Hénin perçoit qu'il est en train de faire ses preuves au sein du groupe djihadiste.
Najim Lachraoui, quand il arrive, il est très discret. En fait, il arrive dans l'ombre de Mehdi Nemouche, qui, lui, est extrêmement exubérant. Sauf que Nemouche, l'exubérant, va rester, en tout cas de ce qu'on peut en percevoir, assez marginal dans le dispositif de l'État islamique. On sent qu'il n'a pas tellement la confiance des autres membres du groupe. Et à l'inverse, Lachraoui est plus discret, semble plus appliqué, presque méticuleux. Lachraoui se comporte avec nous de façon plutôt correcte. Là où Nemouche s'amusait à nous affamer, quand c'est Lachraoui qui est chargé des tournées de popote, eh bien, on a droit à des rations plus généreuses. Et je n'ai pas le souvenir que l'Achraoui ait jamais porté la main contre nous. Et donc l'Achraoui, au début très discret, semble presque comme l'assistant des mouches. Et en quelques mois, on va voir sa métamorphose. On sent à ce moment-là, à la fin, qu'il a gagné ses galons et qu'il a rejoint ce qui ressemble un peu à des forces spéciales du califat. Ça se voit en particulier à partir de son équipement. Il a le pantalon avec plein de poches, plusieurs armes sur lui, plusieurs radios. Enfin, il ressemble presque à quelqu'un du GIGN, enfin ce genre d'accoutrement. Et on comprend qu'il a pris du galon. Et il va aussi faire le messager avec ce qui nous semble, dans la hiérarchie de l'EI, les décisionnaires sur notre sort.
Les geôliers fouillent les ordinateurs et les téléphones. Ils découvrent que le frère du reporter Marc Follet sert dans l'US Air Force. Le journaliste américain est particulièrement maltraité. Pendant plusieurs semaines, Nicolas Hénin est menotté avec lui, dos à dos. Leurs geôliers appartiennent au service de sécurité du groupe État islamique, ce que les djihadistes appellent l'Amniyat ou Emni. Ils imitent les services arabes ou occidentaux, pas de manière très convaincante, estime Nicolas Hénin.
Dans le courant de l'automne, ils commencent vraiment à se projeter dans une représentation étatique. On est un État. Et certains d'entre eux vont presque prendre l'apparence de « on est l'administration pénitentiaire hein, », puisqu'à partir du moment où on est un État, ça veut dire qu'on est une administration, et donc on est l'administration pénitentiaire du califat. Le califat n'est pas formalisé, en tout cas de l'État islamique, hein, et non pas une bande de vulgaires preneurs d'otages. Mais ils vont davantage surjouer le côté étatique, et puis ponctuellement, dans leur recherche de renseignements, les interrogatoires, ils vont un petit peu reprendre des mimiques policières, notamment le côté gentil flic, méchant flic, ce genre de choses. Mais d'une façon générale, je les ai trouvés personnellement très très mauvais dans la récolte de renseignements.
Au début de l'année 2014, les otages et une bonne partie des djihadistes se replient sur Raqqa. L'État islamique commence à s'organiser pour régner sur son territoire. Il craint d'être infiltré par des espions, la méfiance règne. Romain, le converti suisse, va s'en apercevoir. Lui, dès le camp d'entraînement, est plutôt réfractaire. Il prétexte une récente blessure et une mauvaise grippe pour en faire le minimum. Arrivé à Raqqa, il presse les émirs de le laisser repartir, pour se soigner, dit-il. Il obtient l'autorisation. Il va récupérer ses affaires, tout ce qui lui avait été pris à l'arrivée. Il a dans son sac des talkie-walkie, un djihadiste est intéressé, Romain les lui donne, mais la situation dérape.
Et je prends un talkie-walkie de la main pour lui montrer comment ça marche, et il y a quelqu'un d'autre qui débarque, on ne sait d'où, qui était quelqu'un qui voulait la sécurité de l'État islamique. Et qui se dit, c'est pas possible, lui, c'est un espion. Et qui m'accuse d'espionnage, qui me saute dessus. Au début, je croyais qu'il rigolait. Et non, il me saute dessus, il me prend Tokyuki des mains, il m'accuse d'espionnage, il pensait que je communiquais avec les Américains. Que Tokyuki qui a une portée de 4 à 5 kilomètres. Ça aurait été difficile, mais bon. Je me retrouve à ce moment-là, assis par terre, me noter les mains dans le dos. Il est à environ 1m50 de moi avec sa Kalachnikov. Je le vois faire un mouvement de charge, mettre le doigt sur la détente et voulait m'exécuter.
Romain est passé à tabac. Plusieurs des djihadistes de Strasbourg, dont je vous ai parlé dans les épisodes précédents, en ont été témoins. C'est aussi ce qui rend son récit crédible. Romain est dans une situation périlleuse. Après avoir fouillé dans son matériel électronique, les djihadistes ont découvert des photos qui trahissent son homosexualité. Il est alors interrogé, lui aussi, par Najim Lachraoui. Il l'identifiera plus tard sur des photos.
Il m'est présenté comme étant un traducteur à la base. Et finalement, c'est lui qui me posait des questions. Les questions qu'il me posait étaient pointues, ce qui était inquiétant aussi, mais son discours n'était pas agressif. On comprend vite que c'est quelqu'un qui a du pouvoir. Il me pose beaucoup de questions personnelles. Ce que je faisais avant, quel était mon mode de vie, mon revenu, ce que j'ai comme économie. Il s'est avéré dans mes affaires, mais je ne l'ai jamais caché à ce moment-là, que dans mon passé, j'étais homosexuel. Et il m'a aussi posé beaucoup de questions par rapport à mon passé. Et maintenant, il m'a notamment demandé de lui décrire la femme idéale. Je commençais par expliquer que le physique ne comptait pas pour moi. Il me dit, mais t'inquiète pas, on a du choix. On présentera une femme. Qu'est-ce que tu veux comme physique idéale ?
Romain est jeté dans une cellule du commissariat de Raqqa, à une dizaine de kilomètres du lieu où sont détenus les otages occidentaux. L'apprenti djihadiste a compté qu'il y était resté enfermé 54 jours.
La cellule mesurait 1m80 par 1m30 environ et faisait une hauteur, j'ai estimé, à environ 4 mètres. Et au final, j'ai été transféré par la suite dans 4 cellules différentes. La plus grande avait la taille d'une petite salle de classe chez nous pour compter environ 25 personnes, notamment des enfants qui étaient là, qui avaient mal fait la prière.
Romain estime qu'il est quand même traité de manière correcte. Il reste une recrue du groupe État islamique. Au bout d'un mois et demi, un nouveau juge vient auditionner Romain et ses co-détenus. Peut-être parce qu'il faut faire de la place, les cellules sont surchargées. Finalement, Romain est libéré. Il repasse la frontière avec deux étudiants turcs venus faire le djihad pendant leurs vacances. Lui se rend à des militaires. Il est expulsé. Il sera condamné en Suisse à une peine avec sursis, assortie d'obligations comme de chercher un travail. On est le 17 mars 2014. Pour Nicolas Hénin et les otages français aussi, les choses s'accélèrent. Peut-être parce que les djihadistes ont besoin d'argent.
On a en mars, enfin, en quelque sorte, la doctrine qui semble s'établir. Puisqu'en l'espace de 2 jours, le premier otage est libéré, le premier otage est exécuté. Et c'est une exécution qui ne sera pas rendue publique, pas filmée sans doute. Et par contre, il y aura des photos. Et les photos nous seront montrées. Et seront envoyées à certains négociateurs ou à certaines familles.
C'était qui cet otage ?
C'était un Russe. L'idée, c'est d'accélérer les négociations avec ceux qui, là où les négociations sont possibles, et de montrer en même temps que la menace est sérieuse. Donc, en l'espace de 2 jours, ils libèrent leur premier otage, ils tuent leur premier otage, et ça va leur permettre de poser le cadre des négociations. Dans la foulée, ils envoient les photos de cette exécution par mail à mon épouse, avec un message. Lui, c'était un des co-otages de ton mari. Donc maintenant, tu presses les négociateurs. Tu as dû savoir par les médias qu'on a libéré quelqu'un, mais on peut aussi tuer.
France Inter, 20 avril 2014.
La joie des 4 ex-otages français. Ils sont arrivés ce matin à l'aéroport de Villacoublay après 10 mois de captivité. Didier François, Édouard Elias, Nicolas Hénin et Pierre Torres ont été accueillis par François Hollande et par leur famille.
Et l'image que l'on retiendra de cette matinée, c'est celle de Nicolas Hénin. Le journaliste a pris ses deux filles dans les bras dès qu'il a posé le pied au sol.
Il y a eu pas mal de déplacements. On était un peu plongé dans le chaos syrien.
Vous avez été bien traité ?
Pas toujours. Je vous remercie. Je dois rejoindre les autres.
Quand on est libéré, les 4 Français, derrière nous, il y a 15 copains. Et autant de familles qu'il faut rassurer, qu'il faut informer. Autant d'autorités de pays qu'il faut aussi guider dans d'éventuelles négociations. Moi, les derniers mots, quand je quitte la cellule et le groupe, je dis « see you, bro », à plus tard, mon frère, à James Foley. On a l'espoir de se revoir, même si on sent que ça va être difficile.
Dans les semaines qui suivent, une 15aine d'otages sont libérés, mais ni les Britanniques ni les Américains. Au mois d'août, les États-Unis lancent des frappes aériennes pour arrêter l'offensive du groupe État islamique sur le Kurdistan irakien. Le 20 août, l'organisation terroriste diffuse la vidéo de l'exécution de James Foley.
I wish I had more time.
Le journaliste porte une combinaison orange, une référence à la prison américaine de Guantanamo. Son bourreau est vêtu de noir, cagoulé, juste une fente pour les yeux, il brandit un couteau.
The life of this American citizen Obama depends on your next decision. We are an Islamic army.
Il s'agit de Jihadi John, l'un des 4 geôliers britanniques que les otages avaient surnommé les Beatles. La mise en scène rappelle les vidéos d'égorgement d'Al-Qaïda en Irak, une dizaine d'années auparavant.
La nouvelle de l'exécution de Foley va être l'un des grands traumatismes pour moi de cette prise d'otage. Et cette nouvelle est un choc parce que non seulement il y a le choc d'avoir perdu James, que James ait été assassiné, mais en plus il y a on comprend que pour les autres, ça va être c'est très compromis.
Parmi les otages que Nicolas Hénin avait côtoyés, le journaliste Steven Sotloff est assassiné, puis les travailleurs humanitaires David Haines, Alan Henning et Peter Kassig. Les terroristes surnommés les Beatles auraient encore exécuté plus d'une vingtaine de prisonniers. Jihadi John sera tué par une frappe américaine, les autres ont été capturés. Nicolas Hénin a retrouvé sa famille, ses enfants, il tente de reprendre le cours de sa vie.
Et puis assez rapidement aussi, il y a le retour, et le retour des terroristes qui viennent commettre des attentats chez nous. Et ça aussi, normalement, quand on est pris en otage, eh bien, on laisse ses anciens geôliers dans les montagnes d'Afghanistan ou dans les dunes du Sahel, mais ils restent là-bas. Et je comprends, en particulier le 13 novembre, que certaines personnes que j'avais croisées à Raqqa sont à 2 stations de métro de mon domicile parisien. Enfin, ont commis une tuerie à 2 stations de métro de mon domicile parisien.
I was always working steady, but I never called it art. I got my shit together, meeting Christ and reading Marx. It failed my little fire, but it spread the dying spark. Go tell the young Messiah. What happens to the heart? There's a mist of summer kisses where I tried to double park. The rivalry was vicious. The women were in charge. It was nothing, it was business, but it left an ugly mark. I've come here to revisit. What happens to the heart? Had a pussy in the kitchen and a panther in the yard. In the prison of the gifted, I was friendly with the guards, so I never had to witness what happens to the heart. Just to look at her was trouble, it was trouble from the start. Sure, we played a stunning couple, but I never liked the part. It ain't pretty, it ain't subtle. What happens to the heart? Now the angel's got a fiddle. The devil's got a harp. Every soul is like a minnow. Every mind is like a shark. May I've broken every window, but the house is dark. I care but very little. What happens to the heart? Then I studied with this beggar. He was filthy, he was scarred by the claws of many women he had failed to disregard. No fable here, no lesson, no singing meadowlark, just a filthy beggar guessing what happens to the heart. Working steady, but I never called it art. It was just some old convention, like the horse before the cart. I had no trouble betting on the flood against the ark. You see, I knew about the ending. What happens to the heart? I was handy with a rifle, my father's 303. I fought for something final, not the right to disagree.
Happens to the Heart, le nouveau titre posthume de Leonard Cohen dans le NRV La Suite. 13 novembre, l'enquête continue sur France Inter Plus avec un autre journaliste de la chaîne qui rejoint Sarah Guibaudot, c'est Omar Waman. Il a été correspondant pour Radio France à Beyrouth pendant de longues années et c'est l'un des premiers à avoir contacté des apprentis djihadistes sur le terrain. Les interviews qu'il a réalisées à l'époque sont édifiantes.
Au début de l'année 2014, une bonne partie des futurs terroristes de Paris et de Bruxelles sont arrivés en Syrie. Ils combattent dans les rangs du groupe État islamique, comme Abdelhamid Abaoud, qui se filme avec des cadavres. Sur les réseaux sociaux, ces jeunes djihadistes aiment poser avec leurs kalachnikov ou dans les villas cossues qu'ils occupent. Si on pouvait faire abstraction des armes et du contexte, on dirait qu'il règne une ambiance de colonie de vacances. Des revenants l'ont exprimé ainsi. Et pourtant, certains de ces djihadistes commettent des crimes de guerre et ils ne cachent pas qu'ils aimeraient faire des attentats en France.
Salam alaikum.
Assalam alaikum.
Est-ce que tu me vois là ?
Je te vois.
Attends.
Mon collègue, Omar Waman, grand reporter, cherchait à l'époque à entrer en contact avec ces jeunes Français partis faire le djihad. Sur les réseaux sociaux, deux profils attirent son attention.
Ouais, tu m'entends ou pas ?
Ouais, là je t'entends.
Ok, je disais donc toi, je travaille à la radio.
Alors moi, je m'appelle Omar Waman, je suis journaliste pour Radio France à Paris. Je suis ce qu'on appelle un reporter de guerre, tu vois, donc je suis allé... plusieurs fois en Syrie, dans le nord, la Halep.
Omar, comment avais-tu repéré ces djihadistes que tu interviewes là pour France Culture en 2014 ?
Alors en fait, c'est un véritable jeu d'enfant. À ce moment-là, c'est les pionniers, hein, les premiers djihadistes français à se rendre en Syrie. Ils sont sur Internet, beaucoup. Ils vont notamment sur Facebook, c'est comme ça que je les ai repérés. Et je leur ai mis un petit message à de très nombreux djihadistes. Hein. Carte sur table, hein. J'étais très clair, très honnête. Et je leur ai dit, voilà, moi j'ai besoin de savoir ce que vous faites en Syrie. Donc si vous voulez, j'ai des questions à vous poser. Là, vous êtes deux, c'est ça ? Je ne donne pas vos prénoms. Est-ce que je peux donner au moins vos âges ?
Bon, moi, j'ai 24 ans. Mmh. Pour faciliter les choses, on va donner nos kunyas. C'est-à-dire que on va donner deux kunyas qui ne sont pas forcément les nôtres.
Ah.
Je veux dire. Voilà, tu peux les garder parce que ce n'est pas les nôtres.
D'accord, ok. C'est des pseudos. Ok.
Le cadre de l'interview est posé. Cette promesse nous engage toujours. Je ne vous donnerai pas les noms de ces deux Français que nous avons depuis identifiés.
Allô ? Ça a coupé.
Ouais, la connexion d'ailleurs.
Mais je comprends, vous êtes loin là.
Internet ne passe pas très bien, il y a beaucoup de coupures, on est dans la région d'Alep. C'est le soir que tu fais ces interviews avec eux ?
Exactement. En fait, c'est eux qui décident. Moi, je leur ai expliqué que j'étais preneur d'une interview en longueur, au-delà de la propagande qu'ils ont déversée pendant des heures. L'idée, c'était de rentrer dans leur tête, de savoir leur motivation, leur rapport à l'islam, leur rapport à la France, leur rapport à la Syrie, et évidemment, leur rapport à la guerre. C'est après de très longues journées de guerre, de formation militaire, que le soir entre 22h et 23h, eh bien, il m'appelait. Donc moi, je me rendais disponible via Skype.
Omar Waman demande d'abord à ces deux djihadistes comment ils ont été recrutés. Et la question les fait bien rire.
Est-ce que vous avez été contacté ? Est-ce qu'on vous a recruté ? Ou vous êtes parti de votre propre chef, de votre propre initiative en Syrie ?
Excuse-moi, tu parles comme ma mère.
Pourquoi ? Elle vous dit quoi, votre mère ?
Bah, elle me dit la même chose. Elle pense que c'est un lavage de cerveau, en fait.
Ces deux Français sont en Syrie depuis début 2013 pour le premier et même 2012 pour le second. Ils sont donc parmi les premiers Européens à avoir rejoint la guérilla djihadiste, à un moment où, à les entendre, c'était très facile.
Les frères qui sont ici, soit c'est des frères qui sont rentrés dans l'islam il y a peu de temps, et donc ils n'ont pas connu les djihad précédents, ou soit c'est des frères qui ont essayé de partir en Afghanistan, en Irak, qui ont fait de la prison ou autre, et qui, la Syrie, ça a été un djihad qui a été facile à rejoindre. Ça veut dire que les routes, elles étaient ouvertes. Il y a un an et demi, beaucoup plus que maintenant, les routes, elles étaient ouvertes. On arrivait par dizaines, vingtaines, trentaines chaque jour. C'était étonnant, le nombre d'arrivées. Et voilà, ça a été très simple. Donc la décision est simple. Ça fait des années que tu pleures pour rejoindre le djihad. Et voilà, on pleurait depuis des années devant nos écrans et devant les assassinats de frères, de sœurs, et devant la condition du djihad et de l'islam en général. Mmh. Et lorsqu'on nous a ouvert la porte, forcément, on était obligé d'entrer, tu vois. La porte pour le djihad en Syrie, elle était ouverte, je suis rentré.
Ces deux Français sont alors parmi les plus virulents sur les réseaux sociaux. Très vite, au cours de l'entretien, ils se déclarent favorables à des attentats en France. Omar leur a demandé ce qu'ils pensaient de Mohamed Merah, le Toulousain de 23 ans, qui a assassiné en 2012 7 personnes, dont 3 enfants juifs.
Ils ont eu peur de Mohamed Merah quand ils ont vu ce qu'il a fait. Mais des comme ça, il y en a des centaines et des centaines. Ça veut dire que nous, à l'heure d'aujourd'hui, on a des papiers européens. Moi, si je veux, je rentre en France et je fais tout péter. Tu vois ? Ça, c'est la réalité. Je suis venu au djihad, j'ai une expérience. J'ai un an et demi dans les rangs des djihadistes. Un an et demi dans les rangs des extrémistes, comme ils appellent. Un an et demi de guerre. Un an et demi de guerre que je peux venir en France mettre au service de l'islam.
Donc si vous, demain, vous survivez, si vous survivez à ce qui se passe en Syrie, on sait que c'est la guerre. Si vous rentrez, votre objectif, ça sera de faire quoi en France ?
Si je rentre en France, bah franchement, je vais te dire la vérité. Si demain je rentre en France, frère, mon objectif, ce sera de mettre la France à feu et à sang. Ce que je vais faire à la France, après avoir combattu face à des chars d'assaut, après avoir combattu face à des traîtres, à des chiens, à des gens qui n'ont aucune rahma, aucune pitié, si je rentre en France, je peux te dire que la France, ce sera un jeu d'enfant.
Au moment même où Omar réalise ses interviews, un autre Français est sur le retour et s'apprête peut-être à commettre un attentat en France. Cet homme fait partie d'un groupe arrivé très tôt en Syrie et originaire de la Côte d'Azur. Là-bas, les djihadistes les appellent le gang de Cannes. Ibrahim Boudina rentre à la fin du mois de janvier 2014. Bien rasé, vêtu à l'occidentale, il se cache d'abord dans un hôtel de Nice, puis il est interpellé le 11 février à Mandelieu-la-Napoule, près de l'immeuble où habite son père. Sur le palier du dernier étage, le revenant a caché 3 petites bombes artisanales, des canettes de Red Bull remplies de TATP, l'explosif qui signera les attentats du groupe État islamique. Sur Internet, le jeune homme a fait des recherches sur Charlie Hebdo, sur des manifestations juives, sur des camps militaires et sur le carnaval de Nice, des cibles potentielles. 2 jours après son arrestation, un inconnu en Syrie téléphone à la mère du revenant. Il veut savoir où est passé Ibrahim Boudina, car il a été envoyé en mission, ce sont ses mots. Ibrahim Boudina a été condamné à 20 ans de prison.
Ah, j'ai pas très bien entendu.
J'ai entendu un petit bruit derrière vous.
Ouais, il y a les moteurs, en fait, les groupes électrogènes qui fonctionnent, c'est pour ça.
Les deux hommes qui répondent à l'interview d'Omar Waman en février 2014 sont connus des autorités françaises. Mais celui-ci est convaincu qu'il pourrait rentrer en France sans être inquiété.
Je vais même pas me casser la tête. Je vais en Turquie parce que eux, c'est tellement des incapables déjà. Je vais en Turquie que je prends l'avion à Istanbul. De Istanbul, je descends à Paris. Je passe devant le service de sécurité sans souci. Tu vois, je leur fais un grand smile. Et rentrer dans Paris, je tue tout le monde. Donc je vais te dire la vérité, ils peuvent rien faire contre nous, en réalité.
En réalité.
Et même s'ils en arrêtent un, il y en a 10 derrière.
Sans briser l'anonymat qu'Omar Waman leur avait promis à l'époque, je peux vous dire que ces deux hommes n'ont pas pris part aux attentats du 13 novembre. Mais ils ont côtoyé de près les terroristes de Paris. Et alors qu'ils se vantaient de pouvoir tromper les policiers turcs, l'un d'eux a été arrêté, en Turquie, quand il a essayé de sortir de Syrie. Un autre témoignage atteste du fait que le groupe islamique a très tôt envisagé de frapper l'Europe. Mourad Fares, le recruteur dont je vous ai parlé dans le deuxième épisode, s'est livré aux autorités françaises à l'été 2014. Il affirme qu'il a rencontré en Syrie un chef saoudien de l'organisation qui avait un projet secret. Selon Mourad Fares, dès 2013, ce chef recrutait des combattants étrangers, je cite, « pour les renvoyer dans leur pays après une formation » dans le but de commettre des attentats. Ce Saoudien était chargé de l'accueil des combattants étrangers et il gardait tous les passeports confisqués à leur arrivée. Des passeports qui peuvent servir à d'autres pour endosser une fausse identité.
On ne veut pas terroriser, hein.
Mais en même temps, c'est pas d'actualité pour vous parce que vous comptez pas rentrer.
Non, c'est ça. C'est pas d'actualité pour nous. Mais pour nous, en tant que nous, mais il y a des gens qui viennent avec cette simple intention de repartir.
Ils m'ont dit, on ne veut pas te terroriser. Parce que moi, je suis de l'autre côté. Effectivement, ce discours me terrorise. C'était avant Charlie Hebdo, avant le Bataclan et avant un certain nombre de tueries qui ont eu pour théâtre la France. Et aujourd'hui, évidemment, ces interviews-là, quand on les écoute a posteriori, elles sont prémonitoires. Nous sommes en 2014 et évidemment que c'est improbable pour beaucoup d'auditeurs, pour beaucoup de journalistes qui ont une vision romantique de ces jeunes, de ces parcours, de ces jeunes qui sont partis combattre en Syrie un régime brutal, le régime de Bachar el-Assad. Mais la réalité, c'est que le caractère extrêmement dangereux, potentiellement très dangereux de ces jeunes, on est passé un peu à côté.
Une partie de ces jeunes décide pourtant de fuir la Syrie. Peu après ces interviews, plusieurs apprentis djihadistes de Strasbourg, dont je vous ai déjà parlé, les amis du foot et des bars à chicha, rentrent en Alsace. Foued Mohamed Agad, lui, a décidé de rester. Le futur tireur du Bataclan envoie ce message à un proche. « Si je rentre en France, c'est pas pour aller en prison, c'est pour tout exploser. Alors me tentez pas trop à rentrer. » À ce moment-là, commettre des attentats en Europe n'est pas dans les priorités du groupe État islamique. Les djihadistes ambitionnent d'abord de conquérir des territoires pour établir un embryon d'État, c'est ce qui ressort de leur propagande. Pourtant, le 24 mai 2014, un revenant ouvre le feu en Belgique.
Olivier Nederland avec vous, bonne fin d'après-midi. Une fusillade cet après-midi dans le centre de Bruxelles, à proximité du musée juif. Les pompiers confirment un bilan très très lourd.
Le tireur a tué 4 personnes, un couple de touristes israéliens, ainsi qu'un homme et une femme qui travaillaient au musée. L'homme, armé d'un pistolet et d'une kalachnikov, a pris la fuite. Le lendemain, la police belge diffuse sa photo. L'ancien otage Nicolas Hénin, libéré depuis moins d'un mois, reconnaît l'un de ses anciens tortionnaires en Syrie.
Je m'en souviens comme d'une nuit de folie. J'ai eu, après mon retour, une période d'hospitalisation et j'étais dans cette clinique quand la tuerie arrive. Je la regarde de loin parce que je suis les nouvelles, mais sans non plus être attaché dessus. Et puis la photo du tueur, une mauvaise photo, hein, pixelisée, les photos de planches de police, hein, celles qu'on connaît, commencent à être diffusées dans les médias. Et pendant toute la nuit, je me dis, Abou Omar ou pas Abou Omar? Et puis le matin, je finis par rappeler le policier de la DGSI qui avait supervisé nos auditions et notre dépôt de plainte, et je lui dis, excusez-moi commissaire, mais est-ce que, j'ai un doute, est-ce que ça pourrait être lui?
Mehdine Mouche est arrêté le 30 mai lors de son arrivée à la gare routière de Marseille. Le 12 mars 2019, il a été condamné à la réclusion à perpétuité par la cour d'assises de Bruxelles. Les journalistes Didier François et Nicolas Hénin sont venus témoigner à ce procès. Ils se souviennent que Mehdine Mouche était aussi un grand admirateur de Mohamed Merah. Mohamed Merah était son idole, se souvient Didier François. Il disait que c'était le plus grand homme que la France ait produit. Nicolas Hénin ne peut pas oublier la brutalité de Mehdine Mouche.
J'ai eu une séance assez désagréable dans une salle de torture et c'est lui qui était en charge de porter les coups, très clairement. Et ça, j'en ai un souvenir. C'est pas lui qui posait les questions, mais c'est lui qui portait les coups. Il a un ancrage idéologique plutôt moindre que beaucoup d'autres. Ce qui est fou, c'est que, d'une certaine façon, ça le dépolitise presque. Il est parti en Syrie parce qu'il avait des rêves de haine, parce qu'il avait besoin de haine et de violence, et que c'était un bon moyen pour lui pour exprimer sa haine et sa violence.
Le groupe État islamique n'a pas revendiqué la tuerie du musée juif de Bruxelles. Comme les assassinats de Mohamed Merah en 2012, elle a pu apparaître comme l'acte d'un loup solitaire. Mehdine Mouche lui-même, depuis sa prison, s'est plaint que tout le monde l'avait abandonné, qu'il n'avait eu personne pour l'aider. Quelques éléments le relient aux attentats du 13 novembre. En Syrie, Mehdine Mouche a connu Abdelhamid Abaoud, le futur tireur des terrasses parisiennes, et Najim Lachraoui, l'artificier. Après son arrestation en France, Nemouche s'épanche par la fenêtre de sa cellule. Il lance à un autre détenu « Tant qu'il ne démantèle pas la filière, tout ira bien ». De quelle filière parlait-il ? Il n'a pas voulu s'expliquer. Pour la justice, ses preuves sont trop maigres. Nicolas Hénin, lui, est désormais convaincu que tous ces attentats sont l'œuvre d'une même cellule terroriste.
C'étaient les mêmes individus qui étaient nos geôliers et qui ensuite ont manigancé, ont monté et ont partiellement mis en œuvre les attentats. Et ça a commencé avec Mehdine Nemouche. Au début, entre le moment où Nemouche est arrêté et les attentats du 13 novembre, je me pose la question, Nemouche était-il envoyé ou a-t-il commis cela de sa propre initiative ? Après avoir vu les attentats du 13 novembre, je me suis rendu compte que Nemouche avait été envoyé. C'était le poisson pilote de cette campagne.
Au début de l'été 2014, le groupe État islamique en Irak et au Levant lance ses troupes, fortes de milliers de djihadistes étrangers, à l'assaut de l'Irak. Les djihadistes s'emparent avec une facilité déconcertante de la grande ville de Mossoul. Le 29 juin, l'organisation proclame son califat.
Donc voici le drapeau de l'État islamique unifié, flottant haut et projetant son ombre d'Alep à Diyala.
Les djihadistes progressent vers le nord. Ils chassent du mont Sinjar des dizaines de milliers de civils, pour la plupart des adeptes d'une religion ancienne, les yézidis. L'État islamique prend pour cible cette minorité kurde. Aux Nations Unies, on parle de génocide.
Lors de la prise de la ville, les combattants de l'État islamique avaient donné 3 jours aux habitants pour se convertir. C'était cela ou la mort. Hier, ils les ont réunis dans la salle de réception de la maison du chef du village. Ils ont assassiné les hommes, les femmes et les enfants ont été emmenés à Tal Afar et à Mossoul.
Des milliers de femmes sont violées et réduites en esclavage. Les États-Unis lancent des frappes aériennes pour protéger le Kurdistan irakien. Puis ils mettent en place une coalition internationale contre le groupe État islamique. La France en fait partie.
Tôt ce matin, sur la base militaire d'Abu Dhabi, 2 Rafales s'apprêtent à décoller. Ils vont effectuer une mission de repérage sur les positions de l'État islamique en Irak. 26 pays... Une coalition pour lutter contre Daesh, la traduction arabe de l'État islamique.
Daesh constitue un danger immense pour la sécurité du monde.
Le 22 septembre 2014, le groupe État islamique appelle pour la première fois à attaquer l'Occident. Son porte-parole exhorte ses sympathisants à tuer de n'importe quelle manière, je cite, « un incroyant américain ou européen, en particulier les méchants et sales français ». Pour commettre des attentats, l'organisation terroriste a déjà des volontaires. Et les jeunes têtes brûlées vont être encadrées par des vétérans du djihad.
Novembre, l'enquête est un podcast de France Inter.
C'était le Énervé, la suite, France Inter, plus de 13 novembre, l'enquête. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Demain, ne manquez pas le témoignage précieux dans cette investigation au long cours, celui d'un proche de 2 djihadistes qui ont semé la terreur dans les rues de Paris le 13 novembre, mais aussi à Charlie Hebdo quelques mois plus tôt. Je vous souhaite le bonsoir.